Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour vous présenter cette édition d'Escale. Cette semaine, nous rencontrons deux commissaires de police de l'ONU. Les Nations Unies comptent environ 10 000 officiers de police qui sont déployés dans 16 opérations de paix à travers le monde. Ceux et celles qu'on appelle les bérets bleus renforcent et rétablissent la sécurité par leur présence au sein des communautés, donnent des conseils aux services de police nationaux, veillent au respect des droits de l'homme et encouragent et rétablissent l'ordre public et l'état de droit. La béninoise Irène Gaga est commissaire principale de police et travaille depuis plus de 7 ans pour les Nations Unies. Elle occupe actuellement le poste de conseillère principale des questions de police au sein du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, basé à Libreville au Gabon. Irène Gaga était récemment à New York pour la semaine de la police de l'ONU. Lors de notre rencontre, elle nous a parlé de son expérience lorsqu'elle était déployée en Côte d'Ivoire, puis au Mali.
Ma première expérience avec la police des Nations Unies est celle qui a été effectuée entre 2007 et 2009 au sein de l'opération des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire. J'y étais allée en tant qu'officier individuel de police et à ce titre, nous parlions de la protection des civils en organisant des patrouilles en collaboration avec nos partenaires. En plus de ça, j'ai eu aussi à me singulariser sur tout ce qui est violence basée sur le genre. C'est une mission qui n'était pas trop chaude, comme on le dit. Mais quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'ai été commandante régionale de la police des Nations Unies à Mopti, au sein de la MINUSMA, de 2014 à 2017. Et c'est là vraiment où j'ai senti comment la police des Nations Unies s'investissait, puisque c'est un terrain d'opération de maintien de la paix. Et juste après le conflit, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dégradées. Donc, il fallait travailler à la restauration de l'État. Il fallait réhabiliter les postes de police, les postes de gendarmerie de nos partenaires. Et il fallait aussi les aider dans la planification de leur activité. C'était une expérience très riche, difficile. Le terrain était difficile, avouons-le, puisque en marge de tout ce qu'on connaissait, il y avait l'existence des mines. Il y a souvent nos collègues militaires qui, dans leur patrouille, tombaient sur les mines. On avait des cas de décès, on avait des blessés. Et toute la zone que moi je couvrais, la région de Mopti, il y a des endroits où, quand il pleut, vous ne pouvez pas avoir accès. Donc, les accès sont soit par voie aérienne ou bien vous restez déconnecté de ces endroits pendant un long moment. Avec la collaboration de la population, nous avons effectué du bon travail pendant les 3 années que j'ai passé là-bas. Nous avons pu développer et réaliser des projets à impact rapide qui sont encore là. Et au niveau de la société civile aussi, nous avons pu réhabiliter des centres de formation des jeunes et des femmes. Nous les avons équipés en matériel et nous avons aussi pu faire des forages puisqu'il y a des zones où l'accès à l'eau potable était presque impossible. Les gens allaient au même source que les animaux qui s'abreuvaient. En tout cas, le maire, en son temps, nous avait dit que nous avons redonné la dignité humaine à ces populations.
Quel est le projet à Mopti dont vous êtes le plus fier?
Je peux dire que les différents forages qui ont été creusés pour les populations, ça a beaucoup attiré mon attention. Et les gens ont monté des comités pour le suivi. Donc, ces forages continuaient normalement à travailler. Ils ont un comité de suivi. Quant aux forces de défense et de sécurité, la population a beaucoup plus d'entrain maintenant à aller les voir. Puisque si tu vas voir quelqu'un qui doit régler ton problème et qui est dans un état délabré, j'imagine que vous ne serez pas fier, vous ne serez plus tenté d'aller. Donc avec toutes les séances de sensibilisation, les bâtiments qui ont été rénovés, bon, ça va. Mais seulement que le problème de terrorisme persiste toujours.
Pourquoi la police des Nations Unies avait un rôle dans les forages?
Nous avons des projets qu'on appelle des projets à impact rapide qui sont élaborés, financés, exécutés dans 6 mois et les grands projets qui peuvent prendre 1 an, 2 ans. Donc, pour pouvoir faire parler de la police des Nations Unies, non seulement dans les patrouilles, non seulement dans les formations, nous faisons ces projets-là. Et ce sont ces projets qui nous ont permis de réhabiliter presque tous les postes de police de la région de Mopti et de les équiper en moyens roulants, en matériel informatique. Et de l'autre côté, on nous a autorisés à aller au-delà des forces de défense et de sécurité. C'est là où, ensemble avec la communauté, ils nous envoient leur état de besoin, expression de besoin. Et ce n'est qu'à partir de là on étudie les dossiers et on donne priorité. C'est dans ce cadre précis qu'on a pu réaliser des forages un peu partout où l'accès à l'eau potable est difficile.
Le Djiboutien Awali Abdounazir est le chef de la composante police de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, la MONUSCO. Auparavant, il a été à la tête de la composante police de la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA. Quand nous l'avons rencontré à New York, il nous a expliqué comment il a vu le travail de la police des Nations Unies évoluer sur le terrain.
Je fais partie des rares officiers qui ont commencé il y a une dizaine d'années comme officier qui faisait la patrouille. Franchi différentes positions pour devenir chef de police en Côte d'Ivoire, au Mali et au Congo actuellement. Et mon impression que c'est pas ça que ça a beaucoup changé, ça a totalement changé. Ce qu'on faisait il y a 10 ans, ça a beaucoup évolué. On est parti d'une période où la police des Nations Unies faisait des constats et rapportait à une police des Nations Unies qui renforçait les capacités à une période donnée, où maintenant on est dans une phase où on est amené à travailler sur le développement des forces de sécurité locales. Donc c'est une autre dimension, et à travailler sur les questions de la gouvernance de la sécurité, à travailler sur la question du crime organisé. Donc c'est un autre monde depuis une dizaine d'années, ça a beaucoup évolué.
Est-ce que vous pouvez nous prendre un exemple concret du travail de policier quand vous avez commencé au sein de la police des Nations Unies et un autre exemple concret de ce que vous faites actuellement au sein de la MONUSCO ou les gens qui sont sous votre autorité font au sein de la MONUSCO?
Un exemple concret, à l'époque quand on a commencé en Côte d'Ivoire, on faisait des visites, on constatait des violations des droits de l'homme, on faisait des rapports, on rapportait à qui de droit pour dire qu'on a constaté ça en termes de violation. Ça, c'était une période antérieure. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons à la MINUSCO où la valeur ajoutée de la police des Nations Unies est la question d'Ebola qui sévit au Congo, dans une partie particulière où il y a beaucoup de grosses armées. Le travail de la police MINUSCO consiste essentiellement à utiliser les nouvelles technologies et à tracer les personnes à haut risque. C'est quelque chose qu'il y a 10 ans, on ne pouvait pas penser que la police des Nations Unies pourrait être engagée. Aujourd'hui, nous le faisons. Nous utilisons des drones, du matériel high-tech, et nous utilisons la nouvelle technologie pour suivre des cas confirmés des personnes à haut risque par rapport à la maladie d'Ebola, ce qui nous a permis de limiter les déplacements de ces gens, même si quand elle s'est déplacée, nous organisons pour que ces gens-là soient ramenés dans des centres de traitement. Il y a 10 ans, je ne pensais pas qu'on pourrait amener à travailler dans ce domaine-là.
De quoi êtes-vous actuellement plus fier dans ce qui a été réalisé par la police des Nations Unies au sein de la MONUSCO?
D'abord, je dois dire que ma plus grande satisfaction en tant que chef de la police MINUSCO, c'est de faire travailler ensemble plus de 1300 officiers venant de 26 pays. L'autre point qui, je suis certain que les collègues de la police des Nations Unies sont très fiers, c'est de lutter contre les abus et les violences sexuelles. C'est quelque chose qui a déshonoré les casques bleus, parce que nous pensons qu'au-delà d'apporter la paix, nous ne devons en aucun cas abuser des populations. Et c'est quelque chose qui est lié à la dignité humaine, de mettre fin à ça.
Quels sont les défis majeurs que rencontrent les policiers de la MONUSCO en République démocratique du Congo?
Alors, un des défis majeurs, d'abord, on a un nombre très restreint par rapport à la dimension du pays, à la dimension de la mission et à la problématique du RDC, particulièrement à l'Est où il y a les défis sont énormes. Nous sommes très très peu d'officiers en réalité. Ça, c'est un défi majeur pour nous. L'autre défi pour nous, la participation des femmes. Nous souhaiterions avoir plus de femmes. Parce que c'est qu'avec des femmes qu'on va avoir des résultats. Pour avoir la confiance des populations, pour avoir la confiance des victimes, pour aller vers les populations, parler avec les mamans et les victimes, les jeunes filles, il nous faudra engager plus de personnel féminin, que ce soit au niveau des officiers individuels ou au niveau des FPU. Et ça, c'est une lutte de tous les jours pour nous. Et je profite de cette occasion pour lancer un appel aux pays contributeurs et leur demander de nous aider à mobiliser plus de femmes dans la police des Nations Unies, et je suis certain qu'avec les femmes, on aura de meilleurs résultats.
La police des Nations Unies essaie de recruter davantage de femmes, notamment des femmes francophones. Nous avons demandé à Irène Gaga quel est son message à une jeune femme qui hésite à s'engager dans ce type de carrière. Elle nous raconte aussi son expérience personnelle, comment elle est devenue policière de l'ONU.
Dans les temps anciens, il était dit que la femme ne pouvait pas faire le métier d'arme. C'est ce qu'on se dit. Mais en plein 21e siècle, il n'y a plus ce mythe. Donc, nous encourageons les jeunes filles. Nous faisons des séances de sensibilisation dans les lycées, dans les collèges et même dans les universités pour leur dire que tout le travail qu'un homme peut faire, la femme aussi peut le faire si on les mettait dans les mêmes conditions. Donc, de se départir de ce mythe-là, qui présageait que la femme ne pouvait pas être femme en uniforme. La preuve est que moi qui suis devant eux en train de parler, je représente un exemple. J'ai souvent coutume de donner ces petits exemples, puisque au moment où moi-même je rentrais à la police, sur un effectif de 200, j'étais la seule femme. Mais je vous avoue que je n'ai pas démérité. Au contraire, les hommes disaient que c'est parce que la femme est devant qu'ils étaient obligés de me suivre. Donc je leur ai dit, aujourd'hui maintenant, je bénéficie, j'essaie d'étudier, puis il faut tout concilier. C'est pas parce qu'on dit maintenant qu'il faut faire la promotion des femmes, tout ça là. C'est femmes avec ses qualités. Il ne faut pas qu'elles occultent ça. Donc la sensibilisation quitte le niveau scolaire et maintenant, pour recruter les gens au niveau des polices et des gendarmeries, on fait aussi ce genre de sensibilisation. Il y a quelque chose qui est fait maintenant, on peut dire que c'est une discrimination, mais positive, où on donne un quota de femmes à chaque recrutement. Je peux lancer un appel à mes sœurs pour dire que rien n'est impossible, c'est mon slogan. Il faut se mettre au travail et le reste c'est facile.
Pour venir à une question plus personnelle, comment êtes-vous devenue policière et comment après vous avez décidé à un moment d'être candidate à la police des Nations Unies?
Rentrer à la police, pour moi, n'était pas une vocation. Je pensais à tout, sauf entrer à la police. On était tous en première année d'université. Quand on s'est dit, tiens, la première occasion qui va s'offrir à nous, on va la saisir. Ça peut être enseignement, ça peut être militaire. Et du coup, le concours est venu. Et c'est ainsi que on est allés tous à ce concours. Je vous assure, c'était au niveau PPC. Mais nous, on était déjà première année après le bac. Nous tous qui avions postulé, on était presque tous reçus. Donc sur les 200 qu'on était retenus, il y avait déjà près de 175 qui étaient bacheliers. Et maintenant, revenant à la police des Nations Unies, c'est à la télé, quand je vois les gens avec les casques bleus, leurs cravates, j'ai dit, mais ceux-là, ils travaillent comment? Ils font quoi? Donc on était un jour à l'école, quand les gens sont venus pour dire, on veut envoyer des gens en mission, mais vous devez passer un test. J'ai dit, mais si c'est ça, moi-même, je passe. Et c'est ainsi que j'ai intégré. Je n'ai pas regretté quand même. C'est vrai qu'il y a des jours où tu peux ne pas dormir, toute la nuit, surtout quand j'étais au Mali, mais c'est toujours une leçon apprise.
Le collègue d'Irène Gaga, Awale Abounassir, estime qu'il est indispensable pour la police des Nations Unies de recruter plus de femmes pour avoir la confiance des populations. Nous lui avons demandé ce qu'il faisait pour encourager les femmes à venir travailler à la MONUSCO.
Nous menons des activités de proximité par l'intermédiaire des commandants de contingent, par l'intermédiaire des missions permanentes, par l'intermédiaire des attachés de défense et de sécurité, mais également le quartier général. Pour nous, la division police ici mène activement une politique pour accroître le personnel féminin et nous aider à avoir du personnel féminin. Et je suis convaincu que dans les prochains mois ou prochaines semaines, on aura une augmentation si, bien entendu, le pays nous aide à avoir du personnel additionnel féminin.
Et justement, si vous aviez un message à lancer à des jeunes femmes francophones pour les encourager à venir travailler dans des missions, qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre de venir travailler à la MONUSCO?
Alors, je vais leur parler d'abord en tant que femme, en tant qu'officier féminin, que votre valeur ajoutée dans les Nations Unies reste et demeure la proximité par rapport aux populations, la proximité par rapport aux victimes, la proximité du groupe vulnérable que sont les femmes et les jeunes filles. Et je pense que votre place est vide et nous lançons un appel à vous et nous sommes disposés par l'intermédiaire de la division police ici de vous accompagner. Ce n'est pas seulement de vous demander de venir, mais nous sommes disponibles à vous accompagner. Si vous avez besoin de formation, nous sommes disponibles à vous former mieux. Si vous êtes disponible de savoir les formalités administratives, nous sommes disponibles à vous former, à vous accompagner. Il y a également l'OIF qui joue un rôle important, l'Organisation internationale de la francophonie, qui mène une politique de proximité aux pays francophones pour amener à faire participer les femmes d'abord, mais également l'ensemble des officiers pour qu'on puisse aider les pays francophones en crise. La majeure partie maintenant des missions des Nations Unies sont des missions francophones en Afrique. Il revient à nous de les aider, qui ayons eu la même formation, qui avons fait les mêmes études, et c'est le moment pour nous de rendre ce que la francophonie nous a rendu tout en aidant ces pays-là.
Voilà, fin d'escale avec deux commissaires de police de l'ONU, Irène Gaga et Awale Abounassir, un magazine conçu, produit et présenté par Jérôme Bernard. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet et via les médias sociaux nos magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien d'ONU Info. Merci de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.